VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. L'Éthiopie a rouvert aujourd'hui son ambassade dans la capitale érythréenne, Asmara, dans le cadre de la spectaculaire réconciliation intervenue entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique après des années de tensions, selon les médias officiels. Le président érythréen Isaias Afewerki et le nouveau premier ministre éthiopien, le réformateur Abiy Ahmed, ont signé en juin un accord de paix mettant officiellement fin à une longue période d'hostilité. Monsieur Abiy s'est rendu hier en Érythrée pour sa deuxième visite depuis son arrivée au pouvoir en avril, visitant les principaux ports sur la mer Rouge avant de gagner Asmara. Une cour martiale sud-soudanaise a reconnu aujourd'hui 10 soldats coupables de viol, de travailleurs humanitaires et du meurtre d'un journaliste hors de combat à Juba. C'était en juillet 2016. Le tribunal militaire a jugé que les accusés étaient coupables en raison de leur responsabilité directe dans ces crimes, a déclaré le juge Knight Bariano Almas, énumérant les accusations de viol, meurtre, pillage et destruction. Au Rwanda, le Parti démocratique vert, parti d'opposition, fera son entrée au Parlement après avoir remporté 2 sièges sur 80 aux législatives de lundi. Selon les résultats provisoires publiés mardi, la coalition menée par le Front patriotique rwandais au pouvoir s'est adjugée 40 sièges, 27 autres seront attribués à des femmes, des jeunes et des handicapés physiques. Pour une réaction, Timothée Dorangmai a joint à Kigali Jean-Claude Nezimana, le secrétaire général du Parti démocratique vert.
Jusqu'à maintenant, c'est vraiment une chose agréable pour nous. Même si on avait prévu d'avoir beaucoup de pourcentage, parce que maintenant on a eu 5%, mais on avait prévu au moins d'avoir 10 personnes qui nous représentent dans le Parlement.
Vous aurez donc 2 sièges au Parlement. Qu'est-ce que cela vous donne comme marge de manœuvre dans un Parlement de 80 sièges?
Le déplacement dans le Parlement aussi peut changer beaucoup de choses. Et premièrement, c'est le Parti démocratique vert, mais aussi sur la politique ou bien la démocratie au Rwanda.
La situation politique au Rwanda continue d'être dominée par le Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir et ses alliés. Qu'en est-il de la vie politique dans le pays?
Ce que nous voulons au Rwanda, c'est que pour nous, comme le Parti vert, nous voulons qu'il y ait le partage du pouvoir. Mais jusqu'à maintenant, si vous regardez, il y a le partage, mais on ne peut pas dire que c'est à 100% parce que, comme vous disiez, le parti FPR a beaucoup de représentants, plus que tous les partis qui restent.
D'aucuns disent que le jeu politique au Rwanda est verrouillé avec des opposants en prison et d'autres opposants en exil. Qu'en dites-vous?
Nous apprécions les opposants qui font leur politique à l'intérieur du pays. C'est une chose qui peut donner une grande contribution sur la politique du Rwanda. Mais ceux qui ont préféré de faire la politique à l'extérieur du pays, leur contribution est vraiment minime. Parce que ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas participer dans les élections. Ils ne peuvent pas avoir la chance de débat qui se fait au forum des partis politiques.
Mais ces opposants disent qu'ils vivent en exil malgré eux. Ils disent que leur sécurité ne serait pas assurée s'ils rentraient au Rwanda.
Je ne veux pas dire que tous les opposants qui sont à l'extérieur ont la même raison d'être ailleurs. Il y en a ceux qui sont à l'extérieur par cause des erreurs ou bien des crimes qu'ils ont commis ici quand ils étaient ici à l'intérieur du pays. Il y en a les autres qui sont à l'extérieur par cause de l'économie.
Jean-Claude Nezimana, secrétaire général du Parti démocratique vert, joint à Kigali. Les autorités marocaines ont annoncé le démantèlement aujourd'hui d'une cellule terroriste composée de 3 membres et affiliée à l'organisation État islamique. Les suspects âgés de 25 et 26 ans et basés dans les villes de Tétouan, dans le nord, et Agadir, dans le sud du Maroc, avaient prêté allégeance à l'émir de cette organisation, Abou Bakr al-Baghdadi, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Ils projetaient de perpétrer des opérations terroristes dans le royaume à l'aide d'engins explosifs et de produits toxiques, selon la même source. La France réclame des élections le 10 décembre en Libye. Paris estime essentiel d'organiser des élections dans le calendrier agréé en mai pour la Libye, à savoir des élections présidentielles et législatives en décembre qui permettront de sortir du statu quo, a déclaré hier son ambassadeur à l'ONU, François Delattre. Le diplomate français a dénoncé ceux qui voudraient retarder les échéances au prétexte que la situation ne le permettrait pas. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée aux derniers développements en Libye. Vous suivez VOA Afrique. Des centaines de civils ont fui la province d'Idleb, ultime grand bastion insurgé de Syrie, pour trouver refuge dans des territoires plus au nord par crainte d'un assaut du régime de Bachar al-Assad. En cas d'offensive, l'ONU et la communauté internationale craignent une catastrophe humanitaire d'une ampleur inédite à Idleb, même à l'échelle d'un pays ravagé depuis 2011 par une guerre qui a fait plus de 350 000 morts. Le secrétaire d'État britannique à la sécurité Ben Wallace a accusé aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine d'être responsable en dernier ressort de l'attaque au Novichok perpétrée en mars contre un espion russe et sa fille en Angleterre. En dernier ressort, bien sûr, il est responsable, c'est le dirigeant de l'État, a déclaré M. Wallace, alors que Londres a accusé la veille le renseignement militaire russe d'avoir mené les opérations dans cet empoisonnement. Les leaders des deux Corées tiendront leur troisième sommet à la mi-septembre à Pyongyang, a annoncé Séoul aujourd'hui, alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un renouvellerait son engagement en faveur de la dénucléarisation de la péninsule. L'annonce de ce face-à-face entre M. Kim et le président sud-coréen Moon Jae-in du 18 au 20 septembre dans la capitale nord-coréenne survient en pleine impasse entre le Nord et Washington sur l'arsenal atomique nord-coréen. Les dirigeants des deux Corées discuteront de questions comme les mesures pratiques à prendre pour dénucléariser la péninsule, a déclaré à la presse Chung Hyo-young, le conseiller à la sécurité nationale du chef de l'État sud-coréen. Les États-Unis ne sont pas prêts à conclure d'accord commercial avec la Chine, mais les discussions vont se poursuivre entre les deux premières puissances économiques mondiales, a déclaré mercredi le président américain Donald Trump. L'administration américaine qui envisage l'instauration de nouveaux droits de douane portant sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises a organisé des consultations en vue de leur entrée en vigueur de plus en plus probable vers la fin septembre ou début octobre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici même à Washington, nouvelle controverse autour de la présidence de Donald Trump. Le chef de l'exécutif américain a demandé hier soir au New York Times de lui remettre immédiatement pour poursuite le nom d'un haut responsable de son administration dont la tribune anonyme fort critique a été publiée hier par le grand quotidien américain Anne Alberson.
Dans son tweet, M. Trump s'est posé des questions sur l'existence même de ce haut responsable et s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'une autre source fausse inventée par le journal qu'il a qualifié de très malhonnête. Auparavant, il avait écrit un tweet composé d'un seul mot en majuscule « trahison ». M. Trump a dénoncé un texte lâche. Dans sa tribune anonyme, le haut responsable en question explique pourquoi et comment il s'efforce, avec d'autres, de lutter de l'intérieur contre, je cite, « les pires penchants du président américain ». Il a dit que le cœur du problème, c'est ce qu'il a appelé « la moralité du président ». La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, s'est déclarée déçue, mais pas surprise, par la décision du New York Times de publier ce texte, dénonçant une tribune pathétique, irréfléchie et égoïste. La veille, les médias avaient publié de larges extraits d'un livre explosif du journaliste d'investigation Bob Woodward, qui dresse le portrait d'un président colérique et paranoïaque que ses collaborateurs s'efforcent de contrôler, voire de contourner, pour éviter, écrit-il, de dangereux dérapages.
Merci Anne. Au cours des 12 heures d'audition tendue, le candidat conservateur de Donald Trump à la Cour suprême des États-Unis a évité de répondre aux questions acérées des sénateurs démocrates sur ce qu'ils pensent de l'arrêt historique légalisant l'avortement aux États-Unis, se contentant d'affirmer qu'il respectait la jurisprudence. Brett Kavanaugh, âgé de 53 ans, a d'autre part tenu à revendiquer son indépendance face au président américain lors du deuxième jour de son audition de confirmation devant la commission judiciaire du Sénat mercredi. Les républicains disposent d'une courte majorité, 51 contre 49 au Sénat, qui a le dernier mot sur les nominations présidentielles à vie à la Cour suprême. L'audition de M. Brett Kavanaugh se poursuit aujourd'hui pour le troisième jour. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Un nouveau journal, ce sera en compagnie de Henri Francis. Bon après-midi à tous. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2018.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.